Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Maud a toujours voulu devenir mère et avec son chéri, ils profitent quelques années ensemble, voyagent avant de se lancer dans la parentalité. Elle tombe enceinte mais fait une fausse couche hémorragique et découvre le monde du deuil périnatal qu'elle ne connaissait pas. D'abord dans le déni de son mal-être, Maud réalise qu'elle a besoin d'être accompagnée pour avancer. Si elle en veut beaucoup à son corps de lui avoir fait faux bond, elle réussit à transformer cette colère grâce à une thérapie. Maud fait la paix avec son utérus et découvre quelques jours plus tard qu'elle est à nouveau enceinte. Cette deuxième grossesse est une grande joie mêlée à de l'appréhension, alors elle se tourne vers la méditation et la visualisation pour se convaincre que son bébé est en parfaite santé, que cette fois, tout va bien se passer. En effet, elle rencontre son petit garçon et seulement 3 mois après avoir accouché, alors qu'elle allait, Maud découvre qu'elle est enceinte. D'abord flippée, elle se réjouit vite de ce bonheur de porter la vie, un bonheur qui va être de courte durée, car la grossesse s'arrête. Elle aimerait agrandir sa famille, mais après 2 ans d'essai bébé, toujours aucune grossesse à l'horizon. C'est une nouvelle épreuve pour Maud, celle de l'attente, de l'incompréhension et des questionnements sur une possible aide médicale. Sautera-t-elle le pas de la PMA? Bonne écoute!
Bonjour Maud.
Bonjour.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors, toi, tu es la maman d'un petit garçon. Quel âge il a?
4 ans.
Ouais.
Ça s'appelle Milo.
Ouais. Alors, on va revenir avant que tu deviennes maman. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit, plus tard, je serai maman, c'est sûr? Ou c'était pas forcément un sujet qui t'intéressait?
Si, je fais vraiment partie de ces filles qui disent « plus tard, je serai maman ».
Ouais.
Mais je j'ai pas souvenir de m'être dit « non, j'aurai pas d'enfant ». Par contre, ce qui est rigolo, c'est que je me suis... Alors, j'ai dû avoir ce cliché du « j'aurai 2 enfants avant 30 ans ». Donc, pas du tout. mais ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré le père de mon fils, et donc mon conjoint, à 26 ans.
Ok.
Et pendant... des années et des années, moi qui voulais tellement être maman, j'ai vraiment reculé un bon moment.
Ah ouais?
Ouais, parce que en fait, on était hyper bien à deux.
Et les mots, c'était avant, t'avais de couple.
Ouais, j'ai souvent entendu ma mère me dire profite, 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 mais on a profité 10 ans.
Ouais.
Et je me suis étonnée moi-même de pas me dire avant, tiens, faisons un enfant maintenant. On s'est toujours dit qu'on aurait des enfants, mais
ouais.
On a beaucoup, beaucoup. Je sais pas. Passer du temps ensemble, on était bien. Et en fait, il n'y a rien qui nous décidait d'avoir un enfant. Et je me rappelle avoir une discussion avec mon frère où je disais, mais j'ai pas de raison d'avoir un enfant. Pourtant, la vie avance et on sait pas ce qui se passe. C'est la preuve. Et du coup, ce serait pas mal de s'y mettre. Et en fait, je me rappelle que mon frère, qui avait déjà 2 enfants à ce moment-là, m'a dit, mais c'est la meilleure raison d'avoir un enfant, de ne pas en avoir besoin, en fait.
Ouais.
C'est,
oui, c'est.
Ouais, en fait, c'est, voilà, qui
vient des rois à combler.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de, il vient pas réparer quelque chose, il vient pas me compléter, il vient pas, faire que ma vie soit mieux, parce que je m'ennuie. Enfin, voilà, et je lui demande rien. Et du coup, c'est chouette, quoi. Mais bon, il a fallu, du temps. Alors que quand j'avais 19 ou 20 ans, jamais je me suis dit, je vais attendre 35 ans pour m'y mettre.
Et t'as senti la pression un peu de la société autour de la trentaine, oh là là, t'as pas encore d'enfant, il faut...
Pas trop. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup si on n'est pas... comment dire ? Je pense que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup plus chez quelqu'un qui est célibataire, par exemple, j'imagine.
Ouais.
Alors oui, insidieusement, j'entendais forcément des « quand est-ce que vous faites un enfant ?» etc. Mais ça me blessait pas, ça me mettait pas... Je me suis pas mis une pression parce que j'entendais ce genre de choses, parce que je savais que ça allait arriver un jour, qu'on était très bien ensemble, que c'était le père de mes enfants, c'est sûr. Enfin, bon, du coup... Oui, ça me faisait pas mal ou ça me mettait pas une pression supplémentaire.
Mmh.
Mais j'imagine que j'ai des copines qui sont célibataires encore aujourd'hui et elles, ça doit être... Est-ce que ça renvoie à un miroir de « oui, je sais,
oui.
Je suis extrêmement bien placée pour le savoir » et c'est ça qui, je pense, met la pression, c'est quand on est complètement concerné par le sujet, j'imagine.
Oui. Et alors, comment est arrivé le sujet entre vous ?
Oh, déjà, de base, je pense que ça devait déjà faire 2-3 ans qu'on était ensemble, qu'on savait qu'on voulait un enfant.
Ouais.
On savait pas quand, mais c'était de toute façon quelque chose. On s'amusait avec des choix de prénoms, des choses comme ça. Mais je crois qu'on s'est dit, on avait des projets professionnels qu'on voulait faire ensemble.
Mmh.
Donc je crois qu'on s'est dit, on fait ça. Et ce cliché du « on se fait un grand voyage », comme si après on pouvait plus faire de grands voyages. Bon voilà, mais je sais pas, un truc, voilà, ce fameux truc de, on part 3 semaines, 1 mois. Alors on est parti 3 semaines, 1 mois en Thaïlande. Et donc on était en 2017.
Ouais.
Et au retour de Thaïlande, on s'est dit, on y va maintenant tranquillement, sans se mettre de pression, quoi.
Ok. Donc là, t'as quel âge? T'as 35.
J'ai 35 ans là.
Ouais.
Voilà.
Ok. Et alors, est-ce que ça arrive?
Oui, 3 mois plus tard,
okay.
Sans pression, sans rien, sans complément alimentaire ou regarder la glaire cervicale, sans vouloir spoiler la suite. Sans rien de particulier, il ou elle est arrivé en juillet 2017 et je l'ai malheureusement perdu en septembre 2017.
D'accord, ok.
Donc, fausse couche.
Ouais.
Jour de l'échographie, on va entendre son cœur, etc., etc., qui devait être, dans ma tête, un des plus beaux jours de ma vie et qui a été un des pires.
Ouais.
Et suite à ça, extrêmement violent, parce qu'en fait, j'ai fait une fausse couche hémorragique.
Ok, ah oui.
Donc, c'était pas... Déjà, la fausse couche, je vais y arriver. On va dire la grossesse arrêtée.
Oui, c'est mieux.
C'est mon inconscient qui me dit, arrête de dire ça, dis grossesse arrêtée. Ma grossesse arrêtée, c'est déjà violent à vivre de toute façon, puisque 2 mois, 3 mois ou 4 mois, enfin, t'attends de te projeter, de l'aimer, de tout, quoi. Et donc, il y a déjà un deuil à faire, mais en plus, c'était extrêmement violent parce qu'en fait, on m'a dit, il est encore suffisamment petit, c'est un peu la limite pour prendre un cachet, mais c'est encore possible. Et en fait, c'était une erreur médicale. Ils auraient pas dû, ils auraient dû directement aller en curetage.
Ouais.
Et en fait, j'ai pris mon cachet et quelques heures plus tard, je crois, j'ai commencé à perdre du sang et ça s'est plus arrêté. Je crois que j'ai perdu du sang entre 5h et minuit. Mais comme on m'avait dit, venez à l'hôpital si ça coule comme un robinet ouvert.
Ok.
En fait, c'est très flou ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils disent ça va ressembler à des grosses règles. Pas du tout.
Non.
Non, ça ressemble à une hémorragie. C'est pas du tout des grosses règles, ça. C'était pas en continu. C'était beaucoup d'un coup, mais après, plus rien pendant 5 minutes. Donc, je savais pas, ouais. En fait. Puis c'est débile, mais comme c'est extrêmement minimisé, cette fausse couche, j'ai l'impression que, en fait, j'arrivais pas à me dire, il y a un souci, il faut que j'aille à l'hôpital, il y a une raison d'y aller.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Je me sentais pas légitime, moi, à y aller. Parce que c'était pas ce qui correspondait au danger, tu vois, c'était pas comme un robinet ouvert, quoi. Et en fait, je suis tombée dans les pommes une première fois.
Aussi.
Bon, je me suis dit, il doit y avoir de tout, le sang qui coule, l'émotion, enfin voilà. En fait, je m'étais levée des toilettes et je suis tombée. Et je suis revenue à moi quasiment tout de suite. Et heureusement, mon conjoint était là avec moi. Et en fait, on a commencé à se dire, c'est curieux. Et il m'a dit, je vais te chercher un truc à manger quand même, parce que je n'avais absolument pas faim. Et le temps qu'il aille en cuisine et qu'il revienne, je suis retombée à nouveau dans les pommes. Et là, il a appelé Samu.
Ouais.
Et en fait, j'ai donc terminé aux urgences. Là, il est minuit et j'entends, je me suis vidée, donc je suis dans un état. Je me suis jamais sentie comme ça de ma vie.
Ouais,
blanche comme un... Ouais, c'est si bizarre. On est vraiment dans une espèce de bulle. Les voix sont sourdes. J'essaye de garder les yeux ouverts. J'arrive pas. J'ai envie de dormir. C'est faible, mais à un point.
Ouais.
C'est extrêmement bizarre comme état. Et par contre, j'entends l'urgentiste qui est là. Je saurais même plus dire si c'est un homme ou une femme, mais qui me fait une échographie pelvienne. Et j'entends qu'elle dit... Je pense que c'était une femme, puisque je dis naturellement elle.
Ouais.
En fait, il était beaucoup trop gros pour prendre un cachet. Ça aurait dû être un curetage. Et là, en fait, il est toujours là. Et tant qu'il ne part pas, elle perdra du sang. Donc, en fait, elle peut se vider de son sang comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, heureusement, je pense que mon corps m'a protégée en me faisant tomber dans les pommes, en m'alertant avec un signal plus fort que juste perdre du sang. Parce qu'en fait, j'aurais pu... Et du coup, je me suis dit, mais quelle erreur monumentale de ne pas m'avoir prévenue, ouais, qu'il y avait ce risque-là de fausse couche hémorragique. Quelle erreur de dire que ça ressemble à des grosses règles. Enfin, en fait, il faut prévenir directement que ça ressemble à des grosses règles abondantes, ça peut. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un souci.
Oui.
Sorti de ce contexte-là, vous venez à l'hôpital. Je n'aurais pas dû aller jusque-là, en
oui,
fait. Donc là, catastrophe, on appelle l'anesthésiste. Enfin, voilà, on sent une ambiance pas sereine. Mais en tout cas, de ma part, eux, j'imagine qu'ils ont déjà eu bien pire, mais moi, c'était voilà, tout était violent, en fait. Et toute la suite était violente aussi, c'est-à-dire toutes les phrases qu'on entend, le deuil. Aujourd'hui, on entend parler de « il faut faire un deuil » et tout ça, moi, j'avais jamais entendu dire qu'il fallait faire un deuil. Ça paraît bête, mais à cette époque-là, je savais pas qu'on pouvait faire une fausse couche sans ce cliché de j'ai perdu du sang dans un grand magasin, enfin tu vois.
Ouais.
Je savais pas qu'on pouvait aller à l'hôpital, faire une échographie et annoncer il y a pas d'activité cardiaque.
Oui,
naïvement, je savais pas, et qu'on appelle ça aussi une grossesse arrêtée.
Ouais.
Et qu'il faille faire un curetage, je savais pas. Donc il y a vraiment un manque d'information s'en est suivi 3 mois de déni. De « on y retourne, ça va aller, non ça va, c'est pas très grave ». En fait, j'ai, je pense, accumulé toutes les phrases que j'entendais autour de moi qui dénigrent vraiment la fausse couche.
C'est une petite formalité dans la vie, quoi.
Oui, parce qu'en fait, comme tu peux tout à fait avoir un deuxième enfant sans problème, c'est complètement minimisé.
Ouais.
Alors que ça n'empêche pas le deuil, ça n'empêche pas la reconnaissance de cette grossesse qui a eu lieu, de tes émotions, de ton corps qui a changé, de faire, voilà, il y a un deuil à faire. De tout ce que tu avais imaginé, projeté, de... Voilà, il y a un bébé qui est parti. Après, chacun le vit,
oui,
comme il l'entend.
Mmh.
Mais moi, je le vivais comme ça, en tout cas. Et c'était super dur. Et en janvier, je me dis, c'est quand même pas normal que... Je me force, clairement, je me mens, en fait, à aller bien.
Oui.
Faire semblant d'aller bien. Et en fait, ça va pas du tout. Donc, je vais voir s'il existe des thérapies spéciales fausse couche. Et je découvre que moi, j'ai fait ma fausse couche. Enfin, j'ai été, après l'opération, à un étage dans l'hôpital. Juste l'étage du dessus, il y a une psychanalyste spécialisée dans les grossesses arrêtées que tu peux aller voir gratuitement. Mais à l'hôpital, personne ne m'a dit « juste au-dessus de votre lit
».
Bah oui, c'était prévenir. Après, t'en fais ce que tu veux. T'y vas pas, t'y vas plus tard, t'y vas... Ouais, voilà, au moins se dire, si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin parce que c'est trop dur, si vous avez besoin de parler, d'extérioriser, de comprendre des choses, de trouver un sens à tout ça, il y a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui est juste au-dessus, qui peut vous accueillir. C'était au 4e, je me rappelle, moi j'étais au 3e. Et donc j'ai été voir cette dame qui était super, et j'ai fait une thérapie avec elle de janvier à juin. Et évidemment, la fausse couche amène plein de choses, mon besoin de maîtrise, l'absence totale de contrôle sur la création d'une vie qui est bouleversante, enfin mes angoisses de mort. Bon, ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en plus. Donc,
tu la voyais à quel rythme ?
Une fois par semaine.
Ok, d'accord.
Et en plus, parallèlement à ça, je me suis naturellement tournée, parce que plein de gens me les conseillaient, vers ce qu'on appelle les médecines alternatives. parallèle, enfin, je sais pas quel nom on donne, mais donc j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait de la chiropratie, j'ai fait, je me suis même retrouvée avec un chaman. Enfin voilà, là j'ai été avec un mec qui avait été élevé en partie par les Abénakis, qui sont une tribu en Amérique du Nord, je crois. Enfin bref, qui avait des rituels tout, et, bon, assez extraordinaires, quoi. Et du coup, je me suis intéressée à toutes ces autres cultures qui fêtent la fausse couche et le deuil que ça représente derrière, de plein de manières. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de matière pour avancer. Et ce qui m'a fait le plus avancer, c'est ma chiropracteuse qui, un jour, en fait, Ah oui, il faut quand même que je précise qu'en mai... on décide de faire un voyage pareil, le fameux deuxième voyage à Cuba.
Ouais.
Donc là, j'ai fait ma fausse couche en septembre. En janvier, je commence ma thérapie. En mai, j'ai des douleurs. J'ai toujours eu très, très mal
pendant les règles.
Mais j'ai des douleurs atroces. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que mon corps m'envoie une info que j'avais jamais vraiment pris au sérieux. Et quelques jours sur toutes nos vacances à Cuba sont terribles parce que je me dis, mais en fait, je peux rentrer. Enfin, je peux pas. Je suis pliée par terre, au sol, dans les toilettes de l'hôtel. Enfin, c'est absurde. Je peux pas rester comme ça, quoi. Et je rentre et j'en parle à ma psy en disant, vous pensez que ça peut être de la somatisation? Elle me dit, on va quand même aller vérifier s'il y a pas autre chose. Et je vais passer une échographie et on me dit, j'ai l'impression qu'il y a un kyste qui serait du domaine de l'endométriose. Allez passer une IRM. On est au mois de juin. Et je vais passer mon IRM et on annonce que j'ai de l'endométriose.
Ok.
Voilà. Donc, après la fausse couche, voilà l'endométriose. donc, sur un kyste, j'en ai deux. J'en ai un à gauche et un à droite, mais un à droite qui est plus important. J'ai de l'adénomyose aussi, qui est de l'endométriose sur l'utérus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis vachement intéressée à mon endométriose. Non, pas du tout, tu vas comprendre pourquoi. Et là, je, en plus de ma thérapie où j'essaye de passer outre cette fausse couche qui m'a traumatisée, je me dis mais là c'est dégueulasse en fait de me faire ça parce que on m'annonce en plus que je vais avoir des difficultés à faire un enfant, que peut-être il faut que je me fasse opérer, que sinon les douleurs vont s'aggraver, que ça ira de mal en pis, que ça va voilà c'est vraiment le portrait noir et que si je suis tombée enceinte en 3 mois c'était un miracle et que c'est possible que ça se reproduise pas l'enfer. Enfin je me dis mais enfin. Enfin, vraiment, le corps médical n'est pas tendre avec ça. Je comprends l'idée de prévenir, mais on va y aller doucement. Et j'avais déjà vu cette chiropracteuse. Et je rentre dans son cabinet en colère et en fait, j'insulte mon corps et je lui dis enfin, vraiment, il m'emmerde là complètement. Ouais. Il m'abandonne. C'est quoi ce délire, quoi? Et en fait, elle me dit, OK, on va faire deux choses. Vous allez faire votre la paix avec votre utérus de la manière qui vous plaît. Vous allez lui parler, vous allez lui demander pardon, vous allez le pardonner aussi, vous allez faire, voilà, faites ce que vous voulez. Et puis, deuxième chose que m'avait pas dit ma thérapeute, la psychanalyste à l'époque, mais elle m'a dit plein d'autres choses, mais pas ça, mais qui m'a vachement aidée, c'est vous allez donner un prénom à cet embryon que vous considérez, vous, comme un bébé que vous avez perdu. Parce qu'après, on peut...
Ouais.
Chacun, chaque femme le vit différemment, tu vois, mais... Et en fait, c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça. Parce que comme on te dit, c'est pas un bébé, c'est pas vraiment un bébé, etc. Et c'est vrai, aux yeux de la loi, médicalement parlant, ça ne l'est pas. Mais toi, dans ton ressenti, c'est différent.
Ouais.
Et il faut que tu reconnaisses ce ressenti. Parce que tant que tu le reconnais pas, tu peux pas avancer, en fait. Donc si toi, tu décides, tu te dis, en fait, pour moi, c'était un bébé, et ben ok, ben faisons ça. Alors donnons-lui un prénom, redonnons-lui sa place que toi, tu portes dans ton cœur. Donne-lui cette place-là. Ouais. Et donc, donne-lui un prénom, fais-lui une célébration, enfin, voilà. Et donc, le premier truc que j'ai fait, c'est faire la paix avec mon utérus, et c'est le 12 juillet, un matin, et je ne sais pas pourquoi, pareil. Donc là, on est fin juin, j'apprends que j'ai de l'endométriose, début juillet, je vais l'avoir, 12 juillet, un matin, je pose mes mains sur mon utérus, et je lui parle.
Ouais.
Et je ressens une grosse chaleur, évidemment, je pense que c'est... j'imagine, voilà, dans les mains, je ressens un truc... Et je lui parle et je lui demande pardon de l'avoir insulté, de l'avoir accusé, de lui avoir dit que tout était de sa faute, enfin voilà, et que je lui pardonne aussi parce que il a fait ce qu'il a pu malgré la maladie, malgré, enfin, il y a un bon moment, je pleure tout ce que je peux qui reste là ancré depuis des mois et ça va mieux. Et je crois, 7 jours plus tard, je tombe enceinte.
Ah oui.
Voilà. Donc, hasard, pas hasard, conséquence de plein d'autres choses, d'un gros travail d'avant, je ne sais pas, je ne saurais jamais, mais évidemment, j'ai énormément de mal à me dire que c'est un pur hasard. Ce serait, je trouve, dire ça, ce serait ignorer la puissance du corps,
ouais.
Je trouve. Et donc, je tombe enceinte à ce moment-là, mais je ne le sais pas encore. J'apprends début août que je suis enceinte, et début août, je vais faire ma petite célébration pour Olive. Que j'ai appelé Olive parce qu'il faisait la taille d'une olive. Je fais cette petite célébration, je fabrique une petite poupée que je vais jeter sur le port de Dunkerque parce que je suis née à Dunkerque. Et il y a une jetée, il y a quelque chose dans le sens, voilà, arrivé au bout de quelque chose.
Oui.
Et je fais cette petite célébration et j'ai fait mon deuil comme ça. D'accord. Mais sans ça, je pense qu'on peut être traumatisé d'une fausse couche, même 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Je ne peux que conseiller de faire un vrai deuil parce que après j'ai rencontré plein de filles qui m'ont dit moi j'ai fait une fausse couche mais moi ça va et j'ai beaucoup de mal à y croire. Alors c'est possible puisque j'ai fait une deuxième fausse couche donc je suis tombée enceinte de mon fils.
Comment tu réagis quand tu
alors
que tu es enceinte?
Très grande joie,
ouais,
remerciement à mon corps, enfin voilà, là je développais un rapport à mon corps qui est très particulier depuis ce jour-là.
Ouais.
Et une grosse angoisse,
ouais,
de le perdre à nouveau, évidemment. Donc là, c'est parti pour autre chose, c'est parti pour de la méditation tous les jours.
Okay.
Tous les jours, méditation. Tous les jours, visualisation de mon enfant en parfaite santé. Tous les jours, demander à mon corps de le protéger, de l'accueillir, de dire à mon fils que j'ai fait confiance, qu'il est en parfaite santé. Enfin, gros travail là-dessus, de me concentrer sur l'instant présent, parce que je vais faire des échographies, qu'on me dit que tout va bien. Mais la veille de la fameuse échographie, où on va voir, on va entendre le cœur, on va faire des prises de sang pour voir s'il y a pas de trisomie, etc., etc. Cette fameuse échographie où on m'avait dit il n'y a pas d'activité cardiaque, il y en a plus. Crise d'angoisse. Là, je suis dans mon lit, j'arrive plus à bouger. Je dis à mon conjoint mais c'est l'enfer dans ma tête parce qu'en fait j'ai fait un deuil pendant des mois et des mois et des mois. Je pensais que c'était derrière moi. Mais là, en fait, mon corps me dit « Mais on va pas revivre ça une deuxième fois. C'est pas possible. » Et donc, il y a un amalgame dans le cerveau. On a l'impression qu'on va revivre la même situation. Et donc, j'essaye de me calmer, de dire, de m'auto-convaincre que ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même année, ce n'est pas... c'est différent.
Ouais.
Et en fait, tout va bien, jusqu'au bout.
La grossesse s'est bien passée.
La grossesse s'est bien passée avec des hauts et des bas assez classiques, de nausées les premiers mois... Pas vomi, pas une seule fois. Mais grosses nausées qui te font dire « Il faudrait que je vomisse, en fait, parce que là, c'est pénible. » Deux trucs un petit peu chiants. J'ai continué les tournages parce qu'on était en tournage de mon projet Family.
C'est vrai.
Et donc, comme je suis comédienne, je tournais aussi dedans. J'étais à 5 mois et demi de grossesse. J'ai fait un tournage un peu costaud où mon corps m'a dit non. Il m'a envoyé des bonnes contractions rapprochées. Elles m'ont bien fait peur. Donc j'ai fini aux urgences et on m'a dit ça va, tout va bien, le bébé va bien, le col va bien, juste on va faire attention. Oui. Et j'ai refait la même chose en février, alors que là vraiment je me suis dit, à part monter des escaliers, il ne se passait rien dans le tournage. Et pareil, le soir, allongé, j'ai des très grosses contractions, très rapprochées. Et pareil, on me dit, le bébé va bien, son cœur va bien, votre col n'est pas ouvert. Là, on a...
Et nagez.
Ouais, c'est ça, on va arrêter de faire l'andouille.
Ouais.
Donc, mis à part ces deux trucs-là, non, grossesse, très tranquille.
T'avais fait un projet de naissance?
Ouais,
ouais.
Que j'ai pas du tout respecté.
Ouais.
C'est-à-dire avec bien tout ce qu'il faut, je veux la salle nature, je veux les ballons, je veux pas de péridurale à moi, que vraiment... Voilà, bon, tu parles. J'ai tout oublié. Non, j'ai perdu les os à 4h30 et on est arrivé à l'hôpital à 7h30. En fait, on m'avait dit si vous perdez les os, vous devez y aller directement. Mais en fait, j'ai perdu les os un peu comme ça.
Oui,
pas
sur.
Voilà, un truc comme on en voit dans les films. Donc, la poche des os fissurée, et en fait, on m'avait dit mettez une serviette hygiénique et vous verrez si c'est juste une incontinence. Pour être dans le glamour, ou si la poche est fissurée. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'on versait un petit verre d'eau dans la serre. Donc on m'a dit, a priori, c'est la poche des os qui est fissurée. Mais si c'est pas... Enfin voilà, vous avez 2 heures devant vous, largement. Et donc on est arrivé à 7 heures. Et à 7h, ils ont bien vérifié que c'était ça. Et je me rappelle que la sage-femme m'a dit « Bon, bah, vous ne partirez pas sans votre bébé dans les bras. » Je me suis dit « Wow,
c'est now !»
Et j'ai eu des contractions assez fortes rapidement. Et je ne savais pas en fait que quand on perd les os, les contractions qui arrivent sont fortes tout de suite. Alors que dans un chemin où la poche n'est pas fissurée, apparemment, c'est plus régulier, plus... Bon, après, les expériences sont tellement différentes.
Ouais.
Et j'ai tenu jusque 16 heures. Et pareil, à 16 heures, elle est rentrée.
Avec mon projet à la main, en me disant « Je viens de voir sur votre projet que vous vouliez quand même rester un peu... » Donc, elle m'a ramené le ballon. Je vais revoir rouler le ballon. Je me suis dit « Arrête, ramène-moi la nana qui m'a mis 40. » Oubliez ce que j'ai dit il y a 6 mois. Je n'étais pas dans un état normal.
Et je l'ai fait quand même. J'ai fait le ballon et elle était mignonne. Elle était avec moi en face en me disant... Pour y arriver et tout. Non, non, on va pas faire ça. Emmenez-moi dans la salle d'accouchement. Et je pense, 10 minutes plus tard, elle m'a emmenée dans la salle d'accouchement et j'ai eu ma péridurale. Et là, c'était cool. Et en fait, ils voulaient pas me le faire parce que entre 4 heures, donc j'ai perdu mes os à 4 heures et 16 heures, mon col s'était ouvert que à 2. Donc 10 heures de travail avec un col à 2, c'était un peu léger. Mais les contractions étaient vraiment fortes. Donc ils m'ont dit, on va quand même le faire, mais attendez-vous à ce que ça dure encore très longtemps. Eh ben, tu parles. En 1h30, je suis passée de 2 à 10.
Ah oui?
Ouais.
Heureusement qu'ils te l'ont fait à ce moment-là, parce que sinon ça...
Oui! Et non, c'était parfait. Ouais, vraiment. Alors après, par contre, une fois à la péridurale, moi, j'ai dormi, en fait. Réussir à dormir pendant son travail, c'est quand même fou. Et après, ça a été... C'est un marathon, hein, de voir une chute de vécu. Oui. De pousser un enfant, l'expulser vers la vie, là, c'est costaud, mais... Mais tout s'est super bien passé.
Ouais. Rencontre avec ton petit bébé.
Ouais. Tout de suite, peau à peau.
T'avais prévu d'allaiter, toi, ou...
Oui.
Ouais.
Oui. Et en fait, je voulais pas spécialement allaiter, mais je voulais qu'il boive mon lait. Donc c'était soit ça, soit je tirais mon lait, on faisait des biberons, quoi.
D'accord.
En gros. Mais on m'a dit, ce serait quand même pas mal, si vous voulez allaiter, de stimuler avec lui. Et j'ai pas. Je l'ai allaité pendant. Et après, on va arriver à la suite, du coup. Qui a une raison, je l'ai allaité pendant 3 mois et demi et je retire pas une expérience. Enfin, quand je vois des mamans qui disent j'ai eu énormément de mal, c'était un vrai deuil pour moi d'arrêter tout ça, je l'entends complètement.
Ouais.
Mais honnêtement, bon, ouais. J'aimais bien quand j'étais chez moi, tranquille, voilà. Mais c'est vrai que t'es esclave de ton enfant, par contre, c'est toute la journée, n'importe quand. Des fois, il t'aide 10 minutes et puis après, il reste là parce que c'est cool. Et j'avais des sages-femmes avec lesquelles j'étais pas d'accord qui me disaient « Mais vous êtes pas une tétine, vous n'avez pas à rester là et tout, mais il en a besoin. » Donc moi, il était hors de question que...
Ouais.
Enfin voilà, j'apprends à être maman aussi, donc bon... voilà, donc je pouvais rester comme ça, collée à lui. Ouais, bon, je pense que pendant un mois, on est resté collés.
Ouais.
Et en même temps, tant mieux, parce que en fait, ça passe tellement vite que tu me dis quoi, je vais lui donner une tétine, je vais me séparer de lui tout de suite. Non, on va prendre, si ça ne dérange pas, fais-le.
Ouais.
Si t'as une vie active très très prise ou que ça te dérange, tu vois, c'est autre chose. Mais là, si ça te dérange à sa femme, là c'est pas mon problème, quoi. Donc oui, c'est des chouettes moments ensemble. Par contre, j'ai eu des crevasses, ça me faisait mal, c'était long. Au moment où on a commencé à passer au biberon et que je tirais mon lait. Moi, le matin, je tirais mon lait et je mettais après dans les frigos et mon conjoint le prenait et ça m'allait très bien aussi, quoi.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Ouais, je crois que je fais... encore une fois, je dois faire partie de ce cliché d'instinct maternel. Mmh. Vous savez, ce truc de « Non, l'instinct maternel, ça n'existe pas, on apprend à être mère et tout ça. » Alors ça, c'est vrai. Par contre... Bon, pour moi, l'instinct maternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est de l'instinct. C'est-à-dire, tu sens ce qui est bon pour ton bébé ou pas. Tu sais qu'il a besoin de toi à ce moment-là. Enfin, c'est pas... j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce sens instinct maternel. C'est-à-dire que ça a été mis pour... toutes les femmes ont un instinct maternel. Alors ça, non, j'entends que pas forcément.
Ouais.
Et de l'autre côté, il y a des mamans qui ont dit « Et moi, je n'ai pas l'instinct maternel. » Et je me dis « Mais tu l'as forcément, puisqu'on parle d'instinct. » C'est-à-dire, c'est la même chose dans la nature. C'est que tu sais quand ton fils a faim. Enfin, pour moi, c'est ça, l'instinct maternel. Ça ne va pas plus loin qu'une espèce de truc philosophique derrière, sociétal. C'est vraiment juste animal, en fait, pour moi, l'instinct maternel. Donc ça, oui, je disais des phrases comme « je sais que j'ai l'instinct maternel ». Non, tout était formidable.
Et alors, tu disais qu'il allait se passer, qu'il s'était passé quelque chose quelques mois plus tard.
Ouais, je suis enceinte de. Enfin voilà, je viens de dire. c'est tout seul. J'allaite depuis trois mois et demi. Et un matin, mon fils veut plus du tout boire. Et ça se reproduit. Donc je force un peu parce que il faut qu'il enfin voilà, qu'il boive un peu parce que j'ai pas encore eu le temps de tirer mon lait et tout ça. Donc je le remets et tout. Et en fait, il me regarde, il boit pas du tout. Donc je me dis, mais bon, bah, je vais tirer mon lait et on va voir s'il boit au biberon.
Ouais.
Ou c'est mon lait qui a un problème. Et en fait, c'est visiblement lié à moi. Et je me dis, c'est bizarre, c'est lui qui décide lui-même d'arrêter de boire. Bon. Et quelques jours plus tard, je me sens un peu gonflée. Puis je suis extrêmement fatiguée alors que ça va. Et comme j'allaite, j'ai pas encore de règles. Mes règles sont pas encore eues. Et médicalement parlant, on te dit que l'allaitement, c'est un contraceptif naturel.
Pas vrai du tout.
Enfin, c'est pas aussi catégorique que ça. Et en fait, mon conjoint va à la pharmacie pour je ne sais plus quoi. Et je lui dis, par acquis de conscience, prends un test de grossesse. Mais vraiment, dessus la tête, quoi. Bon. Et la nuit, il est 6h30, mon fils pleure pour avoir son biberon, son papa le donne. Je me dis, bon, je vais en profiter pour aller faire pipi. Je me dis, tiens, je vais faire mon test. Mais alors vraiment, je me trempe dedans, enfin voilà, je suis complètement crevée. Et là, je vois les deux barres et je me dis, oh, c'est une blague.
Attends, t'avais accouché il y a combien de temps?
3 mois avant.
Ah ouais, incroyable.
Et pour être complètement sincère, on a dû avoir dans le mois 2 rapports. Parce que, voilà, crevé, enfin bref, tu vois, j'ai eu une épisiotomie en plus. Donc voilà, le temps que ça se remette et tout. Et en fait, un film américain, quoi. Ces fameuses nanas qui tombent enceintes comme ça, un soir, sans calculer, sans rien. Si, mais c'est pas possible. Ça veut dire que j'ai ovulé. Enfin, comment j'aurais pu le savoir? J'ai pas eu de règles. Enfin, c'est un bordel.
Ouais.
Donc je pleure. Alors là, à l'inverse, parce que je me dis, je me sens pas prête d'avoir un deuxième enfant tout de suite. Alors que, en ayant de l'endométriose, je me dis que c'est un miracle, encore une fois, qu'il n'a.
Oui.
Donc, après 2 heures de pleurs, de « je peux pas faire ça à mon fils », etc., bon, de culpabilité, de fatigue, etc., je me dis, je l'inverse la tendance et je me dis, bon, écoute, je prends ça comme un cadeau de la vie. Gardons-le, parce qu'il a été question de savoir si je le garde ou pas, évidemment. On le garde, on prend notre décision et... Et en fait, on commence à en rire, on se dit bon, on va se débrouiller. Enfin, on essaye de rester positif. Je suis chez mes parents à ce moment-là, donc j'ai du mal à le cacher parce que je veux pas boire un verre de vin. Du coup, déjà que je me buvais quasiment pas en allaitant, mais tu sais, le truc de tu vides ton sein avant, etc. Enfin bref. Et donc ils vont forcément le savoir. Donc je leur dis, eux, ils trouvent ça génial. Ah, c'est magnifique, etc. Parce que comme je tirais une tête pas possible, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était hier, qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous va nous annoncer une maladie de ça. J'ai dit, je suis à nouveau enceinte. Oh, tout m'a fait peur. Et en fait, par acquis de conscience, je fais une deuxième prise de sang pour voir si le taux de bêta-HCG augmente bien.
Ouais.
Et il augmente pas. Okay. 72 heures plus tard, je suis toujours au même taux et je me dis, aïe, ça pue.
Mm-hmm.
Je l'ai déjà vécu, je sais qu'on m'avait dit, t'aurais dû faire une deuxième prise de sang, peut-être que t'aurais eu un indiqué, enfin, pour éviter cette fausse couche hémorragique que j'ai vécue. Et je me dis, je pense que je vais le perdre, donc on est en vacances. Bonjour les vacances, quoi, alors qu'ils sont au bord de mer, enfin bref, on est à la plage, à la place, et non, on se retrouve aux urgences, et on me dit, effectivement, vous êtes bien enceinte. Mais alors vraiment, ça doit être au tout début, parce qu'il y a un sac gestationnel, je crois, quelque chose comme ça. J'avais même jamais entendu parler de ça, mais il n'y a rien dedans. Donc, soit c'était un œuf clair.
Clair, oui.
Soit c'était tellement petit qu'à l'échographie, ils n'arrivaient pas encore à le voir.
OK.
Et en fait, ils me disent... donc, caché ou curetage, encore le soir, et je fais « Waouh, tous les signaux en alerte, je ne veux plus jamais vivre ça. » Donc, je leur dis « Ni caché, ni curetage, ça va partir tout seul. » Et ils me disent « Non, non, c'est pas possible. On est dans un hôpital, on a une responsabilité. On ne va pas pouvoir vous laisser partir comme ça. » Alors que, enfin, nous, là, on est en train de vous dire que vous allez... avant ça, ils me disent, on va quand même attendre 10 jours pour voir si ça se développe pas. On a vu tellement de miracles qu'on va pas vous enlever un truc qui aurait pu se développer. Donc, ça reste 10 jours.
Ouais.
comme ça pendant les vacances où tout le monde boit l'apéro avec voilà toutes les questions qui me passent par la tête avec un tout petit bébé en plus et tout ça. 10 jours plus tard, donc ça ne s'est pas développé, donc je vais le perdre. Et je leur dis vraiment, je suis sûre qu'il va partir naturellement. Puis je me rappelle parce que je leur dis, on va avoir une discussion, lui et moi. Et en fait, ils ont dû me prendre pour une folle. Et ils m'ont dit, on va surtout vous faire signer
une heure de responsabilité.
Et donc, ils me font signer un truc. Je déclare refuser le traitement et le curetage, ce que je comprends complètement. Hein. Donc, s'il m'arrive un truc, c'est ma responsabilité. Ils m'ont dit, si vraiment il vous arrive un truc, on vous dira pas, non, vous l'avez trop, tant pis. Mais en tout cas, on vous l'a proposé, c'est vous qui l'avez refusé. Et j'ai été le matin et l'après-midi, j'ai parlé à mon corps, j'ai parlé au bébé ou en tout cas ce qui se passait dans mon utérus. Et le lendemain même, je le perdais.
Ok.
Et là,
pas d'hémorragie, tout ça.
Pas d'hémorragie, beaucoup plus naturel, triste quand même, ça, c'est parce que ascenseur émotionnel, parce que les hormones font déjà leur travail. Enfin, donc incompréhension, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Joie, parce que bon, finalement, pourquoi pas? 72 heures de joie, 72 heures plus tard, ça ne se développe pas, donc tu vas le perdre. 10 jours de questionnement, et si jamais il y avait un miracle, enfin, bon, voilà, on voit le tableau. Donc, passer par plein d'émotions, mais pas de traumatisme par rapport à la première année, quoi. Mais je lui ai donné aussi un prénom, je l'ai appelé Céleste.
Et si c'était un sac gestationnel, bah, il s'appelle Céleste aussi.
C'est un sac gestationnel. Mais voilà, il fallait que ça... C'était beaucoup plus doux et au moins j'ai l'impression d'avoir été au bout aussi de ça, quoi.
Ouais. Et alors du coup, donc, petite vie de maman avec ton galindo et l'envie d'avoir
un deuxième enfant. Qui, bon, on savait, je sais depuis le début, moi je rêvais d'une famille nombreuse, mais ça ne sera pas le cas, mais c'est pas grave. Déjà, si je peux avoir un deuxième enfant, c'est cool.
On se dit, quand il devait avoir à peu près 2 ans, ouais.
Tiens, ce serait bien de s'y remettre tranquillement. Encore une fois, on part en se disant sans pression. Et moi, à ce moment-là, je me disais, donc à ce moment-là, j'ai 37, et je me dis, bon, c'est facile quand t'en as déjà eu un, même si ça prend du temps, au moins t'es rassurée, tu sais que ça marche. Mais l'ignorance, quoi, tu te dis, mais en fait, je ne savais pas qu'attendre pouvait faire souffrir. Puisque finalement, la première fois, j'ai mis 3 mois, donc pas franchement attendu. La deuxième fois, j'ai attendu, mais il y avait une raison.
Ouais, tu devais te réparer. Toi.
Ouais, voilà, je pense que inconsciemment, il y avait. J'arrivais à... Il y avait un truc palpable faut que je fasse mon deuil. Enfin, voilà, j'ai tout un travail à faire sur moi avant de retomber enceinte. Et finalement, j'ai fait ma thérapie pendant 9 mois. Donc, 9 mois, c'est marrant. C'est vraiment comme si je devais aussi accoucher d'autres choses. Et à 10 mois, je suis retombée enceinte. Et finalement, 10 mois, c'était pas... Ça commençait à être long. Mais je suis passée par tellement de choses avant que j'arrêtais pas de me dire évidemment que c'est pas le bon moment. Je suis encore en train de pleurer celui que j'ai perdu. Donc en fait, on s'y met en regardant à peu près la fenêtre d'ovulation. Mais enfin bon, et c'est vrai que la première année, on était assez réguliers, mais il y a des mois où je disais à mon conjoint, oh bon là j'ai carrément zappé la date en fait là.
Ouais.
Donc, sur la première année, il y a dû au moins avoir 2 fois où on est passé à côté. Les autres fois, on essayait d'être à peu près régulier. Et puis, le temps passe. Moi, je vieillis. J'ai de l'endométriose. Se pose la question de est-ce qu'elle n'a pas évolué, etc. Et alors, pour la petite histoire, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai toujours eu des douleurs de règles. L'endométriose, j'ai eu le diagnostic en juin 2021 et à partir de là, je n'ai plus jamais eu de douleurs. C'est-à-dire que j'ai eu des douleurs jusqu'en juin 2021, en juillet 2018, pardon. En juillet 2018, je tombais enceinte. À partir de là, j'avais plus de règles, donc plus de douleurs. J'ai accouché, plus de douleurs. Et tout le monde m'a dit, ça va revenir. Ça n'est jamais revenu. Donc, je n'ai plus jamais eu de douleurs liées à l'endométriose. Pourtant, elle est toujours là, mais elle est endormie. C'est comme les plantes en automne, quoi. Elle est en dormance. Mon kyste n'a jamais évolué. Okay. Parce que du coup, on a fait des examens pour voir si c'était ça qui avait grandement évolué et qui empêchait une grossesse possible. Et en fait, rien n'a évolué. J'ai un kyste qui a carrément disparu à gauche. Il y en a un à droite qui fait toujours 1,2 cm, donc en plus, c'est pas dingue, qui est toujours là, qui n'a jamais grossi. Et d'année en année, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas... encore récemment, j'ai vu un gynécologue qui m'a dit, effectivement, je vois de l'adénomyose. Ça m'étonnerait que ce soit ça qui empêche une accroche, parce que ça s'est déjà accroché 3 fois. Enfin,
oui,
deux fois une fausse couche, mais je veux dire, ça a marché quand même 3 fois. Mais qui ne sont pas forcément liés à mon endométriose. Il y a plein de... Ben voilà, enfin, tu vois, c'est le développement d'un embryon, ben, un problème chromosomique. Enfin, il y a plein, mille raisons qui peuvent expliquer ça. J'ai appris que j'avais une trompe bouchée récemment, la trompe droite, justement là où j'ai un kyste. Mais en fait, moi directement, je me suis dit, ok, donc j'ai plus que 50%. Et en fait, mais tu dois le savoir, j'ai appris que les trompes étaient mobiles. Et donc, en fait, quand il y a un problème, elles vont chercher un œuf chez la voisine. Donc, tu peux complètement tomber enceinte avec une seule trompe. Bon, voilà, il y a rien de particulier. Et puis, là, en septembre, ça fera, et je croise les doigts pour ne pas aller jusqu'en septembre, mais 2 ans qu'on essaye.
D'accord.
Et la première année, c'était un peu long, mais je me dis, bon, voilà, c'est... En fait, il y a un truc de socialement, médicalement, on établit tu commences à passer, disons, des bilans de fertilité, donc potentiellement d'infertilité, au bout d'un an d'essai en vain.
Oui.
Et là commencent à venir des mots qui sont marqués, c'est acté, tu vois, des mots comme infertilité, difficulté à concevoir, etc., etc. Et là, tu rentres dans un autre truc de... Ok, on est en train de me dire que j'ai des difficultés à concevoir et je ne sais pas pourquoi. Et c'est extrêmement frustrant qu'on me dise en fait, une grossesse naturelle est complètement envisageable. On peut tenter une FIV pour maximiser vos chances, mais vous pouvez tout à fait tomber enceinte naturellement. Et là, ça ne marche pas. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin voilà, déjà 12. Et puis, et ça s'enchaîne. Et arrive un moment où en fait, je réalise la souffrance que ça représente. Et je me dis, mais c'est horrible, parce que viennent toutes les peurs, en fait, de « ça n'arrivera jamais », de « ça se rejoue, ce serait jamais à nouveau maman », et « pourquoi je veux absolument un deuxième enfant ?»
Oui.
Finalement, on est déjà bien, donc en plus, je culpabilise parce que j'ai déjà un enfant vis-à-vis d'autres femmes qui n'en ont pas du tout, et qui galèrent, des fois depuis 4 ans. Donc je garde tout ça pour moi, et je me dis, mais je peux pas faire ça, parce que, encore une fois... C'est la même chose que pour le deuil de ma fausse couche. C'est je ne me respecte pas en ne reconnaissant pas ma souffrance. Donc, je vais la reconnaître. Donc, je vais pleurer très fort, souvent, les mois, parce que tous les mois, j'y crois. Tous les mois, j'ai l'impression d'avoir des symptômes. Tous les mois, je me dis, cette fois, c'est la bonne. Tous les mois, enfin, voilà.
Déception.
Et tous les mois, quelle conne je suis d'avoir cru à ça, d'avoir vu un signe là-dedans, d'avoir cru que c'était un symptôme, etc. etc. Donc, insulte, culpabilité. Récemment, je me disais, je veux pas que mon fils soit un fils unique. Alors, ça y est, je me disais, mais je vais pas me rajouter en plus la culpabilité alors qu'il me demande rien.
Ouais.
C'est absurde, tout devient absurde, là.
Obsessionnel.
Ah, complètement une obsession, ça devient une obsession. Et en fait, en parlant sur mes réseaux sociaux, librement, tout d'un coup, j'ai des milliers, mais je déconne pas, des milliers de messages de filles qui me disent « Merci d'en parler, de me dire que je suis pas seule, de me dire que je suis pas folle. Parce que là, tout ce que tu décris, c'est complètement ce que je suis en train de traverser. » Et je me dis, comme j'adore écrire et que c'est dans le métier, je me dis « Bah ok, bah, je vais en faire un livre. » Et donc, je décide d'écrire un livre sur cette maman qui a déjà un enfant, qui est heureuse en couple, qui a un métier qu'elle adore, qui est fleuriste, et qui commence à trouver le temps long, ce temps d'attente un peu long, et qui décide d'écrire tout ce qu'elle ressent et concrètement ce par quoi elle passe à ce futur bébé qui tarde à arriver. Voilà.
Et pourquoi tu l'as pas écrit, t'as créé un personnage?
Ouais.
Parce que c'est ton histoire.
Mm-hmm. C'est pas complètement mon histoire.
On est pas fleuriste.
Je ne suis pas fleuriste. et je suis beaucoup plus avancée qu'elle dans ses ressentis par rapport à l'attente. C'est-à-dire que le travail qu'elle n'a pas fait, moi, je l'ai déjà fait. mais même au moment de ma fausse couche, etc. C'est-à-dire qu'elle allait encore dans le contrôle absolu. Et en fait, ce qui là où je trouve que le personnage est intéressant et qui rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, c'est qu'elle a un besoin absolu de contrôle, c'est qu'elle réussit dans la vie. Et puis à l'école, on nous apprend à être performant, à réussir, etc. Et ça se passe pas comme ça. Faire un enfant, c'est pas ça. Faire un enfant, c'est l'inconnu total. C'est accepter que ce soit les mystères de la vie. Même s'il y a une part de science, une part de... C'est mieux de le faire pendant l'ovulation, si on n'a pas marché. Mais il y a quand même une énorme part de magie, et c'est accepter cette part de magie, et c'est extrêmement difficile. Et quand Maxime, donc mon personnage féminin, commence à écrire à ce futur bébé, elle n'est pas du tout dans la magie. Elle est d'abord dans le « on va essayer de faire la nature », etc., dans la croyance absolue de « on va voir comment ça se passe », puis dans le concret, c'est-à-dire « ok, il faut quand même que je fasse des tests d'ovulation », etc., et puis après, dans ce désir qui se transforme en besoin, et ce besoin qui devient une obsession, et qui l'amène par plein de chemins, plein d'émotions hyper intenses. Et puis finalement, ça va lui apprendre plein de choses sur elle, sur sa famille, sur son couple. C'est-à-dire que cette attente lui apporte énormément.
Oui.
Et que c'est sûrement pas un hasard qu'elle soit là, de toute façon, quoi.
Mmh.
Mais je préfère passer par des personnages parce que c'est ce que je préfère faire, j'allais dire, au monde. professionnellement parlant.
Ouais.
Créer des histoires, créer des personnages, créer des mondes, inventer des problématiques, les mettre dans la merde, résoudre les problèmes, créer du conflit, c'est tout ce que j'aime, en fait. Donc, moi, au départ, c'est ce que j'aime. J'ai écrit deux autres livres, dont un avec mon conjoint juste avant, qui est sorti en septembre, qui s'appelle « Comment je suis arrivée jusqu'à moi », qui est nous-mêmes, et tout ce qu'on a mis en place pour, par exemple, notamment sortir de cette fausse couche, lui, sa toxicité familiale. Et là, on parle à nous, mais c'est pas ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est créer des mondes.
Mmh.
Et des familles, et voilà.
Et donc, le livre, il s'appelle « T'attendre ».
T'attendre.
Ouais. Et toi, t'en es où dans cette attente, aujourd'hui ?
Ben, toujours pareil. J'aurais adoré dire « Eh ben, j'attends plus, ça y est, c'est bon, c'est là ». Mais non, c'est marrant parce que je parle beaucoup dedans de ce cliché de... qui du coup est une pression aussi en plus de ah bah je suis tombée enceinte au moment où je suis partie en vacances.
Ouais.
Ah bah je suis tombée enceinte quand j'ai pensé à l'adoption.
Ouais.
Ah bah voilà, je suis tombée enceinte parce que on m'a dit que j'allais entrer en PMA parce que sinon c'était pas possible. Donc en fait j'ai lâché prise et c'est venu à ce moment-là. Et du coup ça devient une nouvelle pression. Ah bah il faut que je fasse un truc un peu dingue pour que ça. Donc bah je vais faire un protocole FIV comme ça. Je vais tomber enceinte naturellement. Enfin c'est absurde. Et en fait énormément de gens m'ont dit. Tu verras, tu vas tomber enceinte quand le livre va sortir. Alors, le livre vient de sortir, donc c'est possible que je tombe enceinte ce mois-ci, par exemple. Je dis pas non, mais j'aimerais aussi qu'on sorte de ce cliché-là, quoi. Et que, en fait, la magie de la vie se résume juste à, potentiellement, ça vient quand ça peut être au milieu de rien et pas forcément une histoire extraordinaire autour. Ah ben, on avait fait les papiers d'adoption. Enfin, il y en a plein des histoires comme ça, C'est parce qu'on a lâché prise. Alors, lâcher prise, oui, j'entends complètement.
Je pense que... connecter à soi. Quand... Ah bah oui, ou des choses comme ça.
Je pense que l'état émotionnel est directement lié, oui. C'est-à-dire, à partir du moment où tu peux bloquer tes règles suite à un gros stress, oui, ton état émotionnel doit jouer sur ta fertilité. Mais ça ne suffit pas.
Ouais.
Enfin, il y a 1000 contre-exemples à chaque fois, quoi. C'est pareil, j'ai mis en place... je prends des compléments alimentaires... J'observe ma garcière cervicale, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le lactose, j'ai arrêté tout ce qu'on pouvait... là où on m'a dit, ça peut provoquer une inflammation. Ça peut... Alors, finalement, le gluten, de toute façon, c'est pas très bon, donc pourquoi pas, si ça permet de prendre soin de soi, si cette attente apporte ça, pourquoi pas. Mais il y a quand même une pression. Enfin, il y a des moments où je me suis dit, dans ces 2 ans d'attente, quasi... ouais, ça se trouve, c'est parce que j'ai mangé un croissant.
Ouais.
Tu vois, ça devient absurde. Et non, je ne pense pas. Mais on te répète tellement ce que tu dois mettre en place pour favoriser ta fertilité, et c'est super. Mais c'est un vrai engagement, c'est une vraie pression. C'est parce que quand tu désires tellement quelque chose et que tu ne l'as pas, et que tu as fait une erreur, tu te dis, c'est peut-être parce que j'ai fait cette erreur-là. De boire une coupe de champagne. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui sont tombées enceintes bourrées. Donc, non mais, en fait, il y a tellement de contre-exemples. Moi-même, je suis un contre-exemple, puisque les trois fois où je suis tombée enceinte, j'ai jamais rien mis en pièce. Donc, en fait, plusieurs fois, à chaque fois, mon conjoint, la dernière fois, il se faisait une pizza avec mon fils, et il y a du gluten dans la pâte, et je disais, j'ai tellement envie de manger une part de pizza. Il me fait, mais putain, mange ta part de pizza. Et je disais, mais non, mais imagine, je sais pas quoi. Il me dit, mais faire attention, c'est. Mais là, en fait, là, c'est trop de pression. Enfin, bouffe-la ta part, si ça te fait plaisir. Et si c'est pas ce mois-ci, c'est pas parce que t'auras bouffé une part de pizza, c'est parce que. Parce que tu contrôles rien, meuf, et puis c'est tout. Donc, j'en suis dans une acceptation, je veux dire, un rapport plus sain à l'attente depuis la fin de mon livre. D'accord. Parce qu'avant, c'était. C'est-à-dire, il m'a apporté, je pensais pas qu'il pouvait m'apporter autant. Mais écrire tout ça, ça m'a fait prendre conscience que. En fait, il y a quand on désire très très fort un enfant, ou quand on désire très très fort n'importe quoi, d'ailleurs un travail, ou t'oublies ce qui est déjà là en fait. C'est-à-dire que t'en viens à oublier que en fait t'as peut-être une famille super, des copains géniaux, je sais pas, un environnement que t'aimes bien, une passion, et t'as pas une vie de merde pour autant en fait. Et le livre m'a permis vraiment de me dire ça en fait, de me dire l'attente est là. Et la déception peut être là aussi tous les mois, mais c'est pas pour ça que j'ai une vie de merde. Je peux pas, ça peut pas contrôler ma vie en fait. Ça peut pas prendre les rênes de mes émotions. Voilà, c'est pas ça qui va déterminer ma joie ou pas ma joie. C'est pas possible. C'est important d'accepter ce que ça me fait, mais ne pas laisser me gouverner par elle, parce que sinon c'est un enfer. Et ouais, tu passes à côté de potentiellement plein de choses, ouais. Parce que t'as que la tête là-dedans.
Et t'en parles avec ton fils ?
Oui. Pas de l'attente, pas de la souffrance que ça représentait, mais du fait que qu'on aimerait bien un garçon, enfin un petit frère, une petite sœur, oui. Et il y a des fois où il me dit « j'adorerais avoir les deux ». D'autres fois où il me dit « non, c'est pas la peine, que je préférerais un chien ». Bon. Il est tellement mignon. Dès qu'il voit un bébé, genre la dernière fois on faisait des courses et il y avait un bébé dans une poussette. Et c'est marrant parce qu'il vient vraiment d'avoir que 4 ans. Et en fait, il regarde et il fait "Oh, regarde les toutes petites mains." Et j'ai l'impression qu'il commence à intégrer le fait qu'un bébé c'est vraiment tout petit. Parce qu'en fait, quand on lui disait. Qu'est-ce que t'en penserais d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Il visualisait un gamin de son âge arriver, oui,
prends la flamme, voilà.
De dire, ah non, parce que pour moi, une petite sœur, c'est ma copine Livia à l'école, qui fait ma taille, en fait, donc c'est pas possible. Il avait pas compris le principe de, en fait, au départ, il sera tout petit, donc en fait, on lui a expliqué qu'il prendra forcément une petite place dans la maison, mais c'est vraiment une toute petite place. Alors on lui dit où est-ce qu'on le mettrait ? Bon, on peut le mettre par terre. On peut pas le mettre par terre, on mettrait sur la voilà. Et on est déjà en train de lui en parler, mais je pense qu'on lui en parlera beaucoup plus quand ce sera très concret, parce que je veux pas non plus qu'il se dise « Mais attendez, ils m'ont dit un truc, là, récemment, ça fait quand même un moment qu'on en parle de cette histoire. » Voilà, c'est ça. Donc lui, il est pas là-dedans, je pense qu'il s'en fout pour l'instant, il préfère tout ce qui l'importe, c'est aller chez Disneyland, enfin, un enfant, quoi. Et quand, de temps en temps, on en parle... Mais c'est assez rare. C'est soit il est motivé, soit pas du tout. Un discours assez classique d'un enfant, j'imagine. Mais...
Et tu parlais tout à l'heure de FIV. Mm-hmm. Est-ce que tu l'en disais ?
Alors, on a fait tous les tests médicaux, sanguins, des prises de sang dignes d'un super-héros. Enfin, vraiment des listes et des listes de trucs que j'avais jamais fait. Des tubes, des moments où tu vas faire ta prise de sang, où tu te dis, mais il y a 25 tubes, là, elle va me vider de mon sang. Et j'ai tout fait. J'ai fait les fameuses IFOSI. Enfin, moi, j'ai fait une IFOSI, mais il y en a d'autres qui ont fait une hystérosalpingographie pour aller voir les trompes. J'ai fait une hystéroscopie, donc une caméra dans l'utérus. Tous les trucs sanguins, mon conjoint a fait un spermogramme, il me restait une mammographie à faire. J'ai fait échographie, enfin, j'ai fait tout. Et c'est là qu'on m'a dit, on peut maximiser les chances parce que il y a quand même un peu d'endométriose, même si elle vous laisse tranquille. Et j'ai 40 ans, bon. Ouais. Mais en fait, vous pouvez tout à fait tomber enceinte demain. Je n'ai pas encore réussi à passer le cap, c'est-à-dire que je... En fait, comme on a dit que c'était naturel, je me dis, bah, laissons la chance au naturel. Alors qu'il y a une autre partie de moi qui me dit, mais tu le désires tellement, cet enfant, ça se trouve, tu fais une fille le mois prochain et c'est bon, quoi, c'est réglé. Mais il y a une partie de moi qui, avec laquelle je suis pas encore alignée, je suis pas encore sûre. Donc, j'ai l'impression que j'ai tout fait pour me rassurer aussi. Mais la décision finale est quand même pas évidente, me concerne. Alors que j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui c'est un peu plus, pas facile à prendre, parce que c'est jamais facile, mais fluide. Oui. Un peu plus, bon, ok, pourquoi pas, essayons, quoi. Mais,
laisse encore le temps de la réflexion.
Ouais, le truc, c'est que je me laisse souvent le temps de la réflexion. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, comme ça faisait un an, on avait déjà commencé à parler de FIV avec le centre dans lequel je suis suivie. Je leur ai dit, j'attends janvier. Et là, je leur ai dit, j'attends septembre. Et du coup, bon, à un moment, soit j'y vais pas, je sais pas. Mais c'est de vraies discussions avec moi-même où je me dis, mais pourquoi tu le tentes pas? Au moins une fois. Alors, c'est contraignant, hein, c'est 15 jours de piqûres, c'est des visites pour aller faire l'échographie plusieurs fois dans la semaine. C'est pas rien, il y a une ponction, t'es endormi, tu reviens, bon.
Ouais.
C'est de l'organisation, quoi, disons. Lui, mon conjoint, il me laisse libre, c'est-à-dire que lui, il me dit, je suis pas dans l'attente, je serais extrêmement heureux si quelqu'un vient agrandir notre famille, mais je suis déjà très heureux, comme ça, avec un seul enfant. Donc, voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Qu'est-ce que ça a changé? Je pense que j'ai énormément travaillé sur mes angoisses. J'aime pas le mot travailler, mais on va dire ça, le fameux travail sur soi. J'ai énormément travaillé sur mes angoisses pour essayer au maximum de ne pas les transmettre à mon fils. Mmh. Et du coup, je pense que mon fils m'a apporté ça. Le fait d'essayer de me débarrasser de tout ce qui pouvait m'empêcher d'avancer sereinement pour éviter de lui transmettre. Mais je pense que je l'ai déjà travaillé en amont, même avant que je tombe enceinte. À partir du moment où j'ai eu ma fausse couche, j'ai commencé à travailler sur moi et j'ai jamais arrêté.
Ouais. Encore maintenant.
Et j'avais jamais fait ça avant. Donc je pense que ça m'a... Peut-être que la maternité m'a rapproché de moi, justement.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Mmh.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Alors, je n'habite plus Paris, justement parce que je ne voulais pas être une maman parisienne, parce que j'ai grandi à la campagne et que pendant des années et des années et des années, je refusais de quitter Paris. Et en fait, ça s'est imposé naturellement à moi, je crois, cette volonté de retour à la nature, de voir mon fils dans un jardin. J'imagine qu'il y a plein de gens pour qui ça se passe hyper bien. Donc, encore une fois, c'est extrêmement personnel de quitter Paris ou pas. Et quand on est parti, il avait un an et demi. S'être une maman à Paris, c'est se partager les espaces dans un parc. Galérer pour trouver une place en crèche. Faire attention à la fenêtre quand elle est ouverte. ce genre de cliché. Mais sinon, je ne sais plus trop ce que c'est qu'être une maman à Paris.
Quel est ton endroit kid-friendly préféré?
Ah bah Disneyland, on y est toutes les semaines. Ouais, un peu forcé, mais... Mais c'est tellement facile.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Alors, les projets rien que pour moi professionnels, on va dire. Je viens de terminer l'écriture du long-métrage Olive, puisque j'avais écrit un court-métrage sur ma première fausse couche qui s'appelle Olive et qui part du deuil, où j'avais pas pu tout aborder parce que c'était un court-métrage. Et là, dans le long-métrage, je vais pouvoir aborder le couple, comment vit le couple, cette fausse couche, la famille... la pression familiale et le dénigrement possible de la famille, de l'entourage, le travail et ce truc absurde d'être enceinte pendant 3 mois, d'aller un samedi matin faire une échographie où on te dit t'as plus de bébé et de revenir le lundi matin et t'as pas parlé de ta grossesse, donc tu ne parles pas non plus de ta fausse couche. Tout est terrible, en fait. Il y a quelque chose d'hyper violent. Donc voilà, c'est le parcours de cette fille qui est grandement en partie moi, mais pareil, elle n'a pas le même métier, elle n'a pas le même rapport à son couple et tout, mais c'est grandement inspiré de ma vie. Le parcours de cette fille suite à cette fausse couche qui va finalement lui apporter beaucoup plus que ce qu'elle ne pensait.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
J'ai plusieurs idées de romans voilà, que j'aimerais écrire. Je vais profiter de l'été, je pense. Et j'ai des envies, mais ça fait longtemps, j'en ai déjà parlé à mon éditeur, d'écrire un livre pour enfants. Et puis, un projet BD, normalement, qui devrait commencer en septembre. En famille, comme je travaille beaucoup avec mon conjoint, il fait partie de mes projets. Donc, puisqu'il est acteur, compositeur et producteur, donc il fait toutes les musiques des films aussi, et puis il est produit. Et puis en famille avec Milou, bah, d'avoir un deuxième enfant. Et un jour, je rêve de construire ma maison. Voilà. Et qu'on ait donc cette maison qu'on aurait construite dans l'idéal un peu ensemble.
Merci beaucoup, Maud.
Merci.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !